Le 25 novembre dernier, le peuple suisse a accepté la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, la base légale pour la surveillance des assurés.
Alors, comprendre ce qui était en place avant ce vote, pour mieux comprendre les changements, c'est ce que l'on va tenter de faire aujourd'hui dans Format A3.
Et avec nous, Chérine Attam, juriste, titulaire du brevet d'avocat. Vous animez également une permanence en conseil juridique au sein de Promente Sana pour la cause des maladies psychiques. Bonjour.
Bonjour.
La surveillance des assurés, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier ?
Oui, en effet, la surveillance des assurés, elle a dû commencer à peu près au tournant des années 2000. Et on a les premiers arrêts du tribunal fédéral qui arrivent à partir de 2006. Puis en 2008, à propos d'une surveillance à l'étranger, on essaye, donc c'est le tribunal fédéral, à ce moment-là, pas encore la Cour européenne des droits de l'homme, qui statue et qui nous dit qu'il y a des conditions quand même, qu'il faut qu'il y ait un soupçon vraisemblable et que la surveillance ait lieu dans un lieu public. Donc effectivement, c'est pas nouveau.
Alors jusqu'à présent, les assurances sociales pouvaient elles-mêmes surveiller les assurés. De quelle manière ? Dans quelle mesure ?
Alors, elles le pourront toujours. Hein. Les assurances sociales, elles filent, comme on peut dire. Elles surveillent la personne dans un lieu. Elles regardent ce qu'elle fait pour voir si ce qu'elle fait est compatible avec ce qu'elle prétend avoir comme limitation dans ses activités. Alors, vous m'avez dit les assurances sociales, mais il n'y a pas que les assurances sociales. Hein. Les assurances sociales, ce sont principalement la loi sur l'assurance accident, la loi sur l'assurance maladie, l'AI, donc assurance invalidité, prestations complémentaires, chômage, allocation familiale. Mais on a aussi des assurances privées, la responsabilité civile, par exemple, et la loi sur le contrat d'assurance qui règle la plupart des contrats d'assurance perte de gain maladie en Suisse. Donc, ces assurances privées peuvent continuer à surveiller les assurés comme elles le faisaient avant. La nouvelle base légale s'applique aux assurances sociales. Pour préciser encore, la nouvelle base légale n'oblige pas à une subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle n'oblige pas l'assureur social à commencer par faire des investigations médicales avant de faire une surveillance. Donc, les assureurs sociaux pourront désormais soit mandater un détective privé, avec qui a certaines exigences pour le détective privé, ou bien elles peuvent avoir un service interne, et ça, c'est pas réglementé par la loi. Elles peuvent avoir un service interne de surveillance.
Bon, ce qui a été souvent dit pendant la campagne avant la votation du 25 novembre dernier, c'est que on peut pas forcément juger de l'état de santé d'une personne et de sa capacité à travailler, par exemple, sur les bases de photos ou de vidéos.
Alors, effectivement, on peut pas juger de sa santé. Ça, même le tribunal fédéral l'a dit à de multiples reprises, qu'un rapport de surveillance ne permet pas à lui seul de juger l'état de santé et la capacité de travail d'un assuré, que ça doit être renforcé par des données médicales. Maintenant, l'évaluation du matériel d'observation par un médecin peut suffire à évaluer certaines choses. Alors, de nouveau, si quelqu'un dit qu'il peut pas utiliser son bras pour travailler et qu'un matériel d'observation le montre en train de jouer au tennis, un médecin peut dire si c'est compatible avec la limitation que l'assuré dit avoir. Mais effectivement, c'est pas juste la photo et la vidéo qui permettent à l'assureur de décider de l'état de santé d'une personne.
Est-ce que des rentes d'assurance maladie ou d'assurance invalidité ont déjà été supprimées uniquement sur la base de photos et vidéos, sans forcément prendre en compte le dossier médical ?
Alors oui, c'est arrivé. Bon, je connais pas tout, hein. Je sais pas tout ce qui se passe. Je connais ce qui arrive jusqu'au tribunal fédéral et on a eu deux cas dans lesquels, effectivement, c'était des cas dans lesquels il s'agissait de troubles psychiques, donc beaucoup plus difficiles à évaluer, évidemment, sur la base d'une vidéo ou d'une photo. Et ce matériel d'observation avait été vu par un médecin du service médical régional du canton de Vaud, si je ne me trompe pas, qui a dit que la personne ne souffrait pas d'un trouble de la personnalité borderline narcissique et d'un trouble dépressif récurrent et qu'elle pouvait retourner travailler, qu'on pouvait lui enlever la rente. Je ne me souviens plus très bien dans quel cas c'était. Donc oui, c'est arrivé, à mon sens, bon, c'est faux, hein, le tribunal fédéral a dit qu'on pouvait pas faire comme ça, il a renvoyé la cause pour un examen plus sérieux, ne serait-ce que du matériel d'observation et ou de convoquer l'assuré pour qu'il puisse s'expliquer sur ce matériel d'observation. Mais à mon sens, c'est quand même une dérive abusive de la part des assureurs, clairement.
Parce que dans ce cas, ce n'est pas uniquement la parole du patient qui est remise en question, mais c'est aussi celle du médecin, hein, qui finalement a donné son diagnostic.
Oui, on peut dire les choses comme ça, en effet. C'est-à-dire qu'un médecin dit que son patient est en incapacité de travail et le médecin du service médical régional, sur la base du matériel d'observation, prétend le contraire. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces choses-là, les médecins traitants et les experts ne considèrent pas la maladie de la même façon. Le médecin traitant, il veut soigner son patient, le rétablir dans sa santé, il soigne une personne. L'expert, de son côté, va regarder si la maladie empêche ou non la personne de travailler. Et donc, il va pas moins soigner une personne que, si je voulais être grossière, un facteur de production. Donc, on n'a pas le même point de vue. Donc, si vous voulez, c'est normal que parfois le médecin traitant et l'expert n'aient pas le même point de vue. Par contre, l'expert n'a pas à remettre en cause le diagnostic en tant que tel. Mais il pourrait dire, en dépit de ce diagnostic, la personne peut effectuer telle et telle tâche.
Mais l'expert est toujours médecin ? L'expert est toujours médecin ?
Oui, le médecin. Pas le détective. Hein.
Non, bon.
Mais on doit soumettre à un médecin. Voilà. On doit soumettre ça à un médecin qui doit convoquer. Disons que si les choses se passent bien, le matériel d'observation est soumis à un médecin qui examine ça et qui ça lui suscite un doute peut-être. Et à ce moment-là, il doit regarder le dossier médical, convoquer la personne, peut-être aussi prendre l'avis du médecin traitant. C'est un indice, si vous voulez. Le matériel d'observation n'est qu'un indice pour savoir si la personne peut ou non effectuer les tâches qu'elle est censée effectuer.
Jamais 203, format A3.
Et nous sommes de retour avec Chérine Attam, juriste, titulaire du brevet d'avocate. Vous animez, Chérine Attam, également une permanence en conseil juridique au sein de Pro Mente Sana pour la cause des maladies psychiques.
Et avec vous, ce matin, on parle de la surveillance des assurés.
Alors, Chérine Attam, ce qu'il faut peut-être qu'on rappelle, c'est que quand on pense aux personnes à l'assurance, on pense aux personnes en arrêt, donc, mais pour des causes physiques et aussi psychiques. Et ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est qu'on est tous des assurés, donc tous sujets à être surveillés un jour.
Bah oui, absolument. On risque tous d'être en arrêt maladie à un moment ou un autre. Et donc, à ce moment-là, on peut être surveillé. Donc, quand on parlait de surveillance des abuseurs, on ne va pas surveiller les abuseurs, on peut surveiller tous les assurés dont on peut soupçonner qu'ils ne sont pas aussi malades qu'ils le prétendent. Donc, on est tous objets potentiels d'une surveillance, qu'on soit malade physique ou psychique, effectivement. Et puis, on peut aussi être surveillé, évidemment, dans le cadre des prestations complémentaires, du chômage, pour d'autres choses aussi.
Le vote du 25 novembre dernier, ça change vraiment quelque chose ou alors finalement ça donne une base légale à des pratiques qui étaient déjà existantes?
Alors les pratiques étaient déjà existantes, elles étaient déjà cadrées par certaines bases légales qui existent de toute façon en Suisse, donc l'article 28 du Code civil qui vous interdit de porter atteinte à la personnalité de quelqu'un. L'article 179 du Code pénal qui limite les possibilités d'intrusion dans le domaine secret. Donc ça existait déjà, mais la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé que ça n'était pas suffisant pour faire une surveillance secrète d'une certaine importance, d'une certaine intensité sur une personne, et elle a demandé à la Suisse de faire une base légale. Donc au fond, on a légalisé pour les assurances sociales, je répète, hein, pas pour les assurances privées, mais pour les assurances sociales, on a légalisé effectivement les moyens de surveillance. Maintenant, on a également donné plus de moyens. Parce que on n'a pas réglementé les moyens techniques par lesquels on va pouvoir surveiller quelqu'un. Donc on a beaucoup parlé des GPS, de ce genre de choses. Au cours des débats, il a été question de ne pas utiliser des moyens techniques qui, je cite, « augmentent considérablement la perception humaine ». Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser un drone ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser un téléobjectif ? C'est pas clair du tout. Ensuite, on peut observer quelqu'un qui se trouve dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public. Donc, ça voudrait dire que si je peux grimper sur un mur et que de là, je vois dans un appartement, je peux le faire. Donc ça, c'est beaucoup plus large que ce qui était prévu auparavant. Il y a eu des discussions là autour, on n'a rien de clair, on ne sait pas comment ça pourra être utilisé.
Ces flous juridiques posent vraiment des questions, peuvent poser problème justement.
Alors, en tout cas, dans les milieux juridiques, on se pose la question de savoir si, à l'occasion d'un nouveau cas, on retournera à Strasbourg pour que la Cour européenne des droits de l'homme nous dise si cette base légale est bien suffisante à faire ce qu'elle permet de faire. Effectivement, c'est problématique.
Cette modification de la loi, elle soumet les assureurs à remplir des critères pour recevoir une autorisation de surveillance ?
Alors, pas les assureurs, mais les détectives qu'ils peuvent mandater. Effectivement, ils doivent être... on a un projet, pour le moment, d'ordonnance sur la loi sur la base générale des assurances sociales qui nous dit que les spécialistes doivent avoir une autorisation, qu'ils ne doivent pas avoir été condamnés au cours des 10 dernières années pour un crime ou un délit. On parle pas de contravention, par contre. Qu'ils ne soient pas l'objet d'une faillite au cours des 10 dernières années, qu'ils aient des connaissances juridiques nécessaires, et puis aussi ce qui a causé problème, qu'ils disposent d'une formation policière ou d'une formation équivalente permettant de mener à bien une observation. Il y aura une liste accessible au public de ces titulaires d'observation. L'autorisation sera valable pour 5 ans, mais pendant ces 5 ans, ils ne seront pas surveillés plus que ça. Et donc ça, c'est seulement dans le cas où on mandaterait, où l'assureur social mandaterait un détective privé. S'il a son propre système de surveillance à l'intérieur de son assurance, eh bien, on n'a plus du tout ces critères-là. Et puis, s'agissant effectivement des assureurs privés, donc la loi sur le contrat d'assurance principalement et la responsabilité civile fait des observations, eh bien ils ne sont pas soumis à ces limites-là.